Approche philosophique de la personne par le Père Marie-Dominique Philippe à Rimont, le 22 décembre 95, 11e conférence.
Je ne retrouve pas autonomie, sécurité, valorisation. Je le retrouve beaucoup plus au point de vue moral, ce qui est normal. Mais je pourrais, dans l'art, retrouver ça. Il y aurait, vous voyez, il y aurait trois niveaux. Parce que là, c'est le niveau artistique. Et le niveau artistique a sa manière de prolonger le corps. N'est-ce pas ? L'art vient prolonger la main. Ce que dit Aristote, ce que je vous ai déjà dit. L'art prolonge la main. Grâce à la marmite, je peux cuire un œuf. Autrement, j'en mets, je le cuire au soleil. Alors, dans certaines régions, c'est plus difficile. Et puis, il y a des jours où il y a le soleil. Et d'autre part, je ne peux pas le cuire avec ma main. Tu vois. Alors, j'ai besoin d'un outil. Alors, c'est très vrai qu'on pourrait regarder tout le point de vue artistique, cette transformation de la matière. Donc, transformation du corps, transformation du milieu vital, et le milieu vital immédiatement présent pour la vie végétative, le milieu vital présent pour le point de vue psychologique, et le point de vue vital du côté culture. Et on trouve toujours la dimension de l'art. Ce serait, je crois, ces dimensions-là par lesquelles on rejoindrait autonomie, sécurité, valorisation. Mais de sorte qu'on aurait trois niveaux. Ça, c'est une petite remarque. L'autre remarque, c'est savoir l'ordre qu'il y a dans ce point de vue-là. Vous comprenez que cet ordre n'est pas donné par la recherche du comment. C'est le ti-esti, c'est-à-dire ce qu'est la réalité et en vue de quoi est la réalité, qui donne l'ordre. Donc c'est la finalité qui donne l'ordre. Et cette finalité n'est pas découverte au niveau du comment, mais elle est découverte au niveau du ti-esti, ce qu'est la réalité. Et donc, c'est par la finalité que j'ordonne tout. Les deux grandes finalités de l'homme, c'est la vérité et l'amour d'amitié. Il n'y en a pas 36, il y en a deux. Intelligence, volonté, vous voyez, et le croisement des deux. Parce que des deux côtés, il y a l'amour et l'intelligence. Il y a un amour de la vérité qui permet la recherche de la vérité. Il y a une intelligence de l'amour qui permet l'amour d'amitié. Donc on retrouve le croisement des deux, intelligence et amour. Mais il y a deux. Il y a une recherche de la vérité qui me donne une finalité qui me dépasse. Et l'amour d'amitié qui me donne une finalité beaucoup plus immanente, beaucoup plus immédiate. Et les deux jouent. Alors laquelle est plus parfaite? Ça dépend beaucoup chez certains. On ne va pas conseiller une recherche de la vérité à quelqu'un dont l'intelligence est très peu développée. On dira l'amitié. Mais à quelqu'un qui a une intelligence très développée, l'amour d'amitié ne suffira pas. Parce que la personne humaine est limitée. Alors, il faudra un compromis. Ou entraîner les deux, ce qui est le mieux. Mais ça ne peut pas toujours se faire dans le mariage. Il y a des tas de problèmes, là, c'est sûr. Il faut comprendre que tout l'autre aspect, c'est d'ordre du conditionnement. Il n'y a pas de finalité. Le problème, c'est avec l'art. Est-ce que l'art donne à l'homme une finalité? Non. Puisque c'est l'œuvre. Alors, je crois qu'on peut dire l'œuvre anti-destin, comme dit Malraux, c'est intéressant. À étudier ça. Malraux a des intuitions, il y a des fois des choses complètement à côté, mais c'était un homme génial sous certains aspects. Ça, on ne peut pas nier. Un homme très curieux, Malraux. Mais, vous savez bien ce qu'il a dit, ça. Quand il a les dernières années de sa vie, ça. pas entendu souvent la télévision, parce que je ne regarde pas la télévision souvent. Et à Paris, j'étais juste un ami philosophe qui écoutait Malraux. Et j'ai pu entendre Malraux disant une des choses les plus intéressantes au fond de sa vision. Quand il regardait la culture qui montait, je ne donne pas plus de 30 ans. Il disait ça, comme ça, sa gueule cassée, genre, ça, il dit comme ça. Je ne donne pas plus de 30 ans à cette civilisation pour la destruction de l'humanité. Sauf si un grand élan mystique l'emporte et la renouvelle. Alors il y avait chez Malraux les deux. Il sentait en lui deux hommes. Il y avait le mystique qui aimait énormément Saint-Jean. Je vais raconter cette petite histoire de Malraux, c'est très intéressant. C'était chez les Dominicaines. C'est les Dominicaines qui me l'ont raconté dans le Midi. J'étais poursuivi pendant la guerre. J'ai été poursuivi par les Allemands. Alors il arrive le soir, la nuit. Il tape un peu. Il savait bien que c'était un monastère. Il dit cachez-moi. Cachez-moi, je suis poursuivi. Alors il dit bon, très bien, on va vous cacher. On a cherché comment le cacher. Alors que c'est la meilleure cachette, c'était derrière à la cave, derrière les bouteilles de vin de messe. Pour des bonnes religieuses, on comprend très bien. C'était pas leur cave, mais c'était. On le cache là derrière. Puis on lui dit qu'est-ce que vous voulez comme livre? Pour si vous voyez, dès qu'il rejoue, donnez-moi l'évangile de Jean. C'est la seule chose qu'il me faut. J'ai besoin de rien d'autre. Mais le mystique chez lui, il y avait ça. Et puis il y avait en même temps l'homme un peu mondain, si vous voulez, qui aimait sa gloire, enfin, ça c'est sûr. Il soignait, comme on dit, son image. Genre, il fallait quand même la soigner. C'est-à-dire tous les matins, passer le baigne. Vraiment soigner son image. Alors, il y avait en lui autre chose. On voit très bien comment cette vision de l'art peut enlever des obstacles, permettre une petite oasis. Les artistes sont des gens comme ça, mais ça ne finalise pas la vie d'un homme. Mais alors, c'est au fond l'art, c'est pour essayer de combler, je crois que c'est très juste, non pas la vérité, c'est l'art n'est pas fait premièrement pour la vérité. Il y a une vérité dans l'art. Mais ce n'est pas la vérité dans ce cas-là de plus absolu. L'art, par rapport au corps, dans son conditionnement, l'art est là toujours pour essayer de créer un milieu. Un milieu. Pour aider la distance qu'il peut y avoir entre notre conditionnement et la finalité. Puisque l'art part du corps, et l'art, au point de vue de l'intelligence, la logique, c'est l'art des arts, comme dira Thomas d'Aquin, pour la logique. Et c'est toujours pour faire que la distance entre le conditionnement et la finalité soit moins grand. À ce point de vue-là, l'art aide beaucoup à vivre. Et aujourd'hui, chez les jeunes, où le point de vue moral est difficile, il y a deux points de vue chez les jeunes. Il y a l'art et l'amour d'amitié. Par l'amour d'amitié, leur montrer la recherche de la vérité. Par le point de vue de l'art, leur faire comprendre comment ce conditionnement doit nous aider à redécouvrir notre finalité. Oui. Je crois qu'on doit redonner un sens moral et du devoir par l'amour d'amitié. Je crois que c'est le seul moyen. Et par l'art, de destruction accentue la différence qui est entre le conditionnement et la finalité, pour que le conditionnement soit tel qu'il étouffe la finalité. Et il y a un art au contraire qui, lui, permet de faire que le conditionnement soit plus humain et soit un sycomore en vue de la finalité. Mais le sycomore dans l'évangile, vous voyez bien, on monte sur le sycomore pour aller plus loin. Et là ressort une disposition merveilleuse pour aller plus loin. Je voudrais maintenant voir que ce que nous avons dit ici, les six dimensions de la personne humaine, il y en a une septième qui est de comprendre la personne religieuse. Toujours au plan philosophique. Quand je suis arrivé à découvrir ce qu'est la personne humaine dans ses diverses dimensions et dans son unité, s'il y a un ordre, c'est pour sauvegarder l'unité. Et la personne humaine réclame l'unité. Je me pose la question, est-ce que la personne humaine, dans le « je suis », est la réalité la plus parfaite qui existe? C'est la réalité la plus parfaite que j'expérimente. Mais est-ce que c'est la réalité la plus parfaite qui existe? C'est la grande question du philosophe. Que tout homme intelligent doit se poser. Existe-t-il une réalité antérieure, supérieure à l'homme, transcendante par rapport à l'homme? Cette réalité dont parlent les traditions religieuses, cette réalité dont parle, si je suis chrétien, ma foi, est-ce que l'intelligence humaine peut, par elle-même, découvrir l'existence de cette réalité? Ce qu'on appelait les voies d'accès vis-à-vis de l'existence de Dieu. Vous comprenez bien que si Dieu existe et que je suis dépendant de lui, c'est-à-dire qu'il m'agrée, l'orientation de ma personne humaine est autre que si Dieu n'existe pas. Si Dieu n'existe pas, j'ai ces six dimensions et je les répète trois fois. Vous savez bien. Ça vous dit quelque chose? C'est un chiffre d'homme. 666. Et c'est l'homme qui se replie sur l'homme et qui considère que l'homme est parfait. L'homme se repliant sur l'homme et découvrant l'homme. Et ne découvre que l'homme. 666. Alors évidemment, ce nombre 666 n'est pas philosophique. C'est un symbolisme d'une tradition judéo-chrétienne. Bon, l'homme se replie sur lui-même, se regarde, et l'immanence absolue de l'homme. L'homme se contemple lui-même et s'aime lui-même. Il dit l'homme. Il n'y a que l'homme que je vois. Si je me pose la question, y a-t-il une réalité plus parfaite, première, antérieure à ce que je suis, et que j'arrive à découvrir, par les voies d'accès, l'existence d'un être premier? Que les traditions religieuses appellent Dieu. Donc le mot Dieu, je vous l'ai déjà dit, c'est pas les philosophes qui l'ont inventé. C'est les traditions religieuses. je peux tout de suite me poser la question, après avoir réfléchi sur ce qu'est un être premier, la réflexion d'un philosophe qui n'avait pas la révélation, Aristote, parce que c'est lui qui, dans le livre Métaphysique, livre Lambda, chapitre 6, dit sur Dieu ce que les philosophes de tout temps ont dit de plus grand. Dans ce livre 6, réfléchissant sur l'être premier, dit l'être premier, c'est la substance première, pure. Elle vit, elle est vivante. Elle est intelligence, esprit plus exactement. Elle est esprit, esprit pur. Et dans cet être premier, la vie et l'être s'identifient. Et la vie et l'être s'identifient à l'esprit. C'est pour ça que cet être premier se contemple. C'est la fameuse expression noésis. Noéseos. La pensée de la pensée. Et c'est ce que Hegel a repris au point de départ de sa philosophie. L'esprit se pense. Comme l'homme est esprit, il se pense. Et toute la construction hegelienne vient de l'homme. C'est pour ça qu'Hegel dit, et n'hésite pas à le dire, seul Aristote forme l'esprit. Une fois qu'on a découvert cet être premier, et qu'on découvre que cet être premier est le vivant, et l'esprit parfait, je peux saisir quelles sont les relations de cet être avec mon je suis, avec moi-même. Parce que Dieu ne peut dire que le je suis. Il est une personne. Le premier Dieu, je suis, est une personne. Quelle relation entre ce je suis et mon je suis? Et c'est là où se pose le problème de la création. C'est-à-dire la relation qui existe entre l'être premier et moi-même. Parce que si Dieu est l'être premier, moi je ne suis pas l'être premier. Et à côté de moi, il y a un autre être aussi qui n'est pas l'être premier. Je suis indépendant de lui, mon autonomie dans l'être. Vis-à-vis de Dieu, je ne peux pas dire que j'ai l'autonomie dans l'ordre de l'être. Je suis nécessairement dépendant de lui, puisqu'il est premier. Il est avant moi. Et je peux à ce moment-là comprendre que mon âme spirituelle ne peut être créée que par Dieu. Et donc, par mon âme spirituelle, je suis totalement dépendant de Dieu. Cette relation avec Dieu est une relation de dépendance. Mais, comprenons bien, c'est une relation en même temps de surabondance. Dieu m'a créé librement, non pas pour lui, mais pour moi. Il m'a créé par surabondance d'amour et dans une vision de sagesse et de contemplation. C'est à l'intérieur de son contemplation que Dieu me crée et qu'il me crée dans une surabondance d'amour. Je suis donc celui qui a tout reçu de Dieu dans l'ordre de l'être. Et qui est totalement dépendant de lui. Vous voyez, ces deux aspects qui ne se contredisent pas. C'est ça qui est très important. Parce que Feuerbach, qui est à l'origine de toutes les idéologies athées modernes, Feuerbach qui confond être et vie dit « Je suis un être libre, donc autonome, donc indépendant. C'est impossible que je sois un être créé. » Puisque qui dit créé dit dépendance. Qui dit autonomie dit indépendance. Voyez, il y a confusion entre vie et être. Mon autonomie est au niveau de la vie. C'est mon âme. C'est ma liberté. Il y a quelque chose que je peux pas changer. C'est mon âme. C'est mon être. Je subsiste. J'existe. Mais je suis libre d'orienter ma vie. Pas entièrement, puisqu'il y a un conditionnement. Mais quand même, je peux assumer ce conditionnement et orienter ma vie de tel ou tel sens. Si je confonds vie et être dans les idéologies idéalistes, il y a cette confusion. Elle est très vieille. Elle dépend de Occam, 14e siècle. Un capucin qui a sûrement une très bonne volonté, mais pas assez intelligent. Elle a fait une grosse confusion. Et depuis Occam jusqu'à Feuerbach, il y a la même confusion. Confusion de l'être et de la vie. Si je confonds être et vie, je ne peux pas, évidemment, comprendre que je suis libre et que je suis créé. Si au contraire, je distingue les deux en moi, je sais que je suis un être créé. Mais cet être créé est créé de telle manière qu'il a en lui une autonomie dans l'ordre de la vie, puisqu'il est esprit. Et donc, il y a une possibilité d'orienter sa vie, de choisir ce qui sera sa fin. Si au contraire, j'identifie être et vie, j'aboutis à une impasse. Je suis créé par Dieu, donc je suis radicalement dépendant. Il y a donc une aliénation fondamentale. Si j'accepte d'être créé. Alors Feuerbach, lui, c'est dans l'essence du christianisme. C'est un livre qu'il faut lire. Faut pas la lire, évidemment, quand on est un petit novice. Alors on serait feuerbachien, au bout du terme. Mais c'est un livre extrêmement intéressant parce qu'il montre la grande confusion de toute l'idéologie athée. C'est lui le chef de file. C'est lui le porteur de drapeau. Et Feuerbach leur montre qu'au fond, poser Dieu, c'est tout simplement la conscience malheureuse de l'homme. Il sait qu'il est infini, mais il est incapable de vivre en être infini. Il est incapable de vivre comme Dieu. Il est un Dieu. En réalité, c'est lui qui est Dieu. C'est lui l'être le plus parfait. Donc il est Dieu. Il n'a qu'à se regarder et dire, mais oui, je suis Dieu, je n'avais pas encore pensé. Je suis Dieu. Là, évidemment, il n'a pas posé la question qu'il n'y a pas que lui. Nous sommes tous Dieu. Alors ça, c'est plus difficile. C'est plus difficile, la multiplicité parmi les dieux, c'est pas commode. Ça, il n'y a pas pensé. Parce que qui dit la perfection totale dit l'unité. Et donc, il ne peut y avoir qu'un seul Dieu. Les Grecs avaient très bien senti ça. Feuerbach ne se pose pas le problème. Et c'est toujours là où il faut les attaquer. Les attaquer, leur faire réfléchir. C'est très bien de dire que vous êtes Dieu, mais votre voisin aussi l'est. Il n'y a pas de raison que ce soit vous, et pas votre voisin, ou votre voisine. Elle est déesse, et vous êtes Dieu. Et vous n'êtes jamais rencontré. Nous sommes des dieux. Jésus le dit, c'est extraordinaire. Vous êtes des dieux. Vous êtes des dieux dans votre vie spirituelle, pas dans votre être. Mais c'est une petite distinction capitale, mais qui distingue la philosophie idéaliste de la philosophie réaliste. Dans une philosophie idéaliste, on ne peut pas distinguer être et vie. C'est pour ça que ça conduit nécessairement à Feuerbach. Vous comprenez, si je commence par l'idée, c'est ma vie spirituelle. Et si je dis que cette idée, c'est ma vie, alors à ce moment-là, les deux se tiennent. Je ne peux absolument pas distinguer. Donc, si je réfléchis qu'en Dieu seul, l'être et sa vie. Il y a entre eux mon je suis et le je suis de Dieu. Il y a à la fois une relation très forte de similitude et en même temps une diversité radicale, puisque je suis fini, limité dans mon être, et que Dieu, lui, est infini dans son être. Il est premier, et je suis second. Je ne suis pas premier dans mon être. Et je ne peux pas l'être premier dans mon être, parce que je suis limité dans mon être. Et si je suis limité dans mon être, c'est parce que je suis dépendant d'un autre. Une fois que j'ai posé ce problème de la création et de cette dépendance à l'égard de Dieu, je comprends que l'acte humain le plus radical, c'est reconnaître que Dieu est la source de mon être, de ma vie, de mon esprit, de mon intelligence et de mon amour. Et si Dieu est la source de ma vie, de mon intelligence et de mon amour, je dois remonter vers lui, retourner vers lui. Tout vient de lui, mais je peux remonter à ma source en l'adorant. L'acte d'adoration est donc un acte éminemment humain et fait partie essentielle de la dimension de l'homme comme homme. Il est créé et il est capable d'adorer Dieu. Et donc, il y a en lui cette nouvelle dimension qui est la septième. Il est celui qui est capable de découvrir sa source, Dieu créateur, et qui est capable de remonter à sa source en adorant. L'adoration, c'est un acte d'amour par lequel je reconnais que Dieu est source pour moi de mon être, de mon esprit, de mon amour, de ma lumière, de mon intelligence. Je reconnais cela. Et en reconnaissant ça, je me situe relatif à lui et que l'amour que j'ai pour lui est un amour naturel puisque j'ai tout reçu de lui. Et donc, je le remercie. Il y a ça dans l'acte d'adoration. L'acte d'adoration fait que c'est non seulement mon esprit, mais mon corps qui remonte vers Dieu, à sa source. Et c'est à partir de ce moment-là que je ne suis plus orphelin, parce que je sais d'où vient la source de mon être. Et c'est en ce sens-là que l'adoration, qui implique la reconnaissance de la dépendance de mon être à l'égard de Dieu, est l'acte qui me donne la plus grande sécurité. Pourquoi l'angoisse est-elle si forte dans notre monde d'aujourd'hui? C'est que on oublie Dieu, on n'adore plus Dieu. Alors on est comme des orphelins qui ne savent plus où ils faut bien comprendre ça. Le refoulement religieux est le refoulement le plus terrible. Parce qu'on se met dans une attitude de celui qui ne sait plus et qui ne peut plus rejoindre sa source, la source de son âme. La vérité, elle est là. Et donc si on la nie, à cause d'a priori affectifs, on est un errant. Et celui qui est un errant, forcément, il se replie sur lui. Et il ne découvre pas en lui la stabilité. Il retrouve en lui, au contraire, qu'il est d'abord rien et qu'il a tout reçu. Et c'est vrai, il a tout reçu d'un autre. Cet autre, c'est Dieu. Ayant tout reçu, il est donc en totale dépendance. Et il oublie de regarder que dans cette dépendance, puisque c'est une dépendance à l'égard de Dieu, elle ne s'oppose pas à sa liberté. Et ça, c'est cette relation très unique à l'égard d'un être qui, pour moi, est source de mon être. Et donc, qui fait qu'entre Dieu et moi-même, il peut y avoir cette relation d'amour qui est l'adoration. Reconnais à ce moment-là que je suis entièrement entre ses mains et que je me remets entièrement entre ses mains. Vous voyez, cette relation d'adoration me permet d'avoir une stabilité dans celui qui me crée, a créé mon âme dans mon corps. Et comme l'acte créateur de Dieu est un acte éternel, il est dans le temps quant à son effet, mais comme acte, il est éternel. Il est donc toujours actuel. Et donc l'adoration rejoint cette dépendance actuelle à l'égard de l'être premier, mon créateur. C'est là, vous voyez, où je découvre cette septième dimension de la personne, qui est une dimension la plus radicale de toutes, puisqu'elle enveloppe même mon autonomie. Elle la fonde. Elle me permet de mieux connaître cette autonomie. Je dépends de Dieu radicalement dans mon être, mais je suis souverainement indépendant de toutes les autres créatures dans mon être, puisque je dépends directement de Dieu. Et que Dieu ne peut pas se servir d'instrument en tant qu'il est créateur. Donc je suis directement et immédiatement dépendant de lui et de lui seul. C'est là où, dans une attitude religieuse, je comprends d'une manière beaucoup plus profonde ce qu'est mon autonomie dans l'ordre de l'être et la dépendance que j'ai à l'égard de Dieu. Mais c'est dans cette dépendance que Dieu me veut libre. C'est dans cette dépendance que Dieu veut que mon être possède cette autonomie, je subsiste dans mon être. C'est-à-dire, mon être m'est donné par Dieu et que le recevant de Dieu directement, je suis souverainement indépendant de toutes les autres créatures. Je comprends aussi, dans la lumière de l'adoration, comment mon intelligence, qui cherche la vérité, a découvert la vérité intelligence, dans cette recherche de la vérité, découvrant Dieu, découvre la vérité. C'est la seule découverte où l'être et la vérité s'identifient. Et où donc mon intelligence peut se reposer en Dieu et le contempler. Par l'adoration, je suis conduit à la contemplation. Il y a une certaine contemplation philosophique de Dieu. Aristote termine son éthique par cette contemplation de Dieu. Donc ne disons pas que c'est l'influence de la révélation. Ne disons pas que c'est à cause de la foi que je dis ça. C'est que mon intelligence est capable d'aller jusque-là et de reconnaître que Dieu seul est la vérité. Et donc me reposer en lui. Et mon intelligence se repose en lui. Et mon intelligence ne peut se reposer qu'en Dieu. Elle a une telle noblesse qu'elle ne peut se reposer qu'en Dieu. Elle ne peut pas se reposer dans une autre créature. Une autre créature est trop limitée. Et l'intelligence, cherchant la vérité, cherche quelque chose d'absolu. Il n'y a que Dieu. Je peux à ce moment-là comprendre que l'amour d'amitié qui me lie aux hommes, qui me lie à mon ami, n'est pas supprimé par cette contemplation et cet amour que j'ai pour Dieu. Parce que Dieu ne fait nombre avec aucune de ses créatures. Puisque la créature n'ajoute rien à Dieu. Et que je suis créé en Dieu. Pas en dehors, puisqu'en dehors, il n'y a rien. Donc, en Dieu, je suis créé. Et je suis créé comme un être distinct du Dieu, mais capable de le rejoindre, capable de l'aimer, capable de reconnaître qu'entre lui et moi, il y a un lien d'amour. Il y a un lien de lumière. Et cet amour à l'égard de Dieu, qui est l'amour le plus parfait et qui m'ouvre à l'amour divin, ne supprimant rien, l'amour à l'égard de la créature, à l'égard de mon ami. Au contraire, il me fait comprendre qu'il y a dans l'amour d'amitié quelque chose qui m'apparente à Dieu. Dans cette réciprocité d'amour et dans cette liberté d'amour où je choisis l'ami, où je me donne à lui, il y a quelque chose qui m'apparente à Dieu. Puisque Dieu, en Dieu, l'amour est substantiel. Donc il y a en Dieu une fécondité étonnante, infinie. Or, l'amour d'amitié peut, lorsqu'il est entre l'homme et la femme, il peut impliquer le don des corps et être source de fécondité. Alors, je vois comment cette fécondité montre que tout amour humain participe à l'amour divin et donc a comme un lien entre cet amour premier dont la fécondité est la création avec moi-même en tant que capable d'aimer quelqu'un, de me donner à lui et que à partir de là il peut y avoir source. C'est au fond la lumière de sagesse sur la fécondité. C'est quelque chose de sacré, puisque ça relève d'un amour qui me relie à Dieu. C'est Dieu qui est source de fécondité, parce qu'il est l'amour. L'amour que nous avons, nous, est limité et partiel. Il n'est pas substantiel. C'est pour ça qu'il n'est pas toujours fécond. Et s'il est fécond, c'est parce qu'il est lié à sa source. Par sa source, qui est Dieu. Alors il y a cette fécondité, cette surabondance merveilleuse de la vie. La fécondité ne regarde pas seulement l'amour spirituel. La fécondité regarde la vie végétative en l'homme. C'est la vie qui implique la fécondité. Et il faut bien distinguer la fécondité de l'efficacité. Il ne faut surtout pas confondre. L'efficacité, c'est le fruit du travail. Et on peut se servir d'instrument pour la fécondité, pour l'efficacité. Tandis que la fécondité est le fruit d'un don mutuel qui fait qu'on est à partir de la source de nouveau d'amour et de vie. Et dans l'amour, il ne peut pas y avoir d'instrument. Tout instrument diminue l'amour. L'amour réclame un don absolu et immédiat personnel. Et la fécondité est la source de cet amour. De cet amour qui a tout pris et qui prend tout. Voyez qu'une fois que j'ai découvert l'existence de Dieu et que je comprends que je suis capable de le contempler et de l'aimer, ma recherche de la vérité et ma recherche de l'amour d'amitié prend toute sa force. Loin d'être supprimée, elle prend toute sa dimension. C'est pas étonnant, puisque c'est Dieu lui-même qui, en définitive, est source de mon esprit, de ma soif de vérité et de ma capacité d'aimer. Alors vous avez là, en définitive, la septième dimension. Et je dirais qu'il y a une huitième dimension. Si je cherche ce qu'est la personne chrétienne, et là je suis au-delà de la philosophie. J'entre en théologie. Et je peux le préciser par la foi. C'est mon lien avec le Christ. Personne chrétienne, c'est mon lien avec Jésus, et je suis comme porté, transformé par le Christ lui-même, et je suis avec lui dans un lien d'amitié qui fait qu'il y a quasi una persona, comme si c'était une seule personne. Tout ce que le Christ a fait est à moi. Tout ce que je fais de bien est du Christ. Donc vous voyez, la huitième dimension. Et au plan philosophique, comprenez bien que c'est le point de vue religieux qui est découvert par mon intelligence que les Grecs, Aristote, avaient découvert d'une manière merveilleuse, et que ceci, c'est en quelque sorte l'achèvement de la philosophie qui, en découvrant le mystère de Dieu, devient sagesse. De sorte que la personne religieuse ne peut se comprendre que dans cette lumière de sagesse philosophique. Je dis bien sagesse philosophique, puisque l'intelligence humaine le découvre. Alors, pour ne pas vous retarder, puisqu'on est dans le temps et pas dans l'éternité, je m'arrête. Alors, je vous remercie de l'attention avec laquelle vous avez suivi. Puis j'espère qu'on pourra se retrouver, puisque la recherche de la vérité, elle doit se continuer. Doit se faire de plus en plus. Seigneur est avec vous. Vous êtes béni. Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.